Donc, qu'est-ce qu'on peut calculer là-dessus? Alors, la première planète qu'on peut utiliser pour faire ce système de catapulte gravitationnelle, bon, je pense que vous en avez tous entendu parler, parce que vous avez entendu parler, par exemple, de la sonde Cassini qui a mis 7 ans pour aller jusqu'à Saturne et qui est passée près de Jupiter, qui a utilisé Jupiter comme catapulte gravitationnelle, etc. Alors, les journalistes, même si certains journalistes scientifiques sont extrêmement pointus, entre autres ceux de France Inter sont pas mal du tout, j'ai vraiment beaucoup de mal à les coincer sur des trucs, en tout cas en physique, où ils disent des bêtises, hein, c'est très très rare. En général, quand même, les journalistes, soit ils ne sont pas des journalistes scientifiques, soit ils ne sont pas très au point, et ils disent des bêtises, et ils nous laissent entendre que, par exemple, Jupiter est une catapulte gravitationnelle extrêmement efficace, parce que Jupiter est énorme. Mais ça, c'est n'importe quoi. Parce que, de toute façon, même la Lune serait une catapulte gravitationnelle extrêmement efficace, bien qu'elle soit beaucoup, beaucoup moins massive que la Terre, qui elle-même est beaucoup, beaucoup moins massive que Jupiter. Car j'espère vous avoir convaincu que la seule chose qui compte, c'est qu'il y a un objet qui soit beaucoup plus massif que l'autre, et ça, de toute façon, même la Lune, elle est beaucoup plus massive que la sonde, et puis ensuite que l'objet qu'on utilise ait une certaine vitesse qui nous permette de gagner deux fois cette vitesse, au maximum. Après, ça dépend des angles aussi, d'orientation, etc. Donc le fait que Jupiter soit gigantesque ne nous aide pas en aucune mesure. Mais c'est le sous-entendu. Un gros Jupiter, donc gros effet. Ben non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ce que nous dit Galilée. Et c'est pas la réalité. D'autant plus qu'en fait, Jupiter se déplace moins vite sur son orbite que la Terre, et moins vite sur son orbite que Mars, et moins vite sur son orbite que Vénus. Alors ça, c'est dû au fait que, c'est quelque chose qu'on verra aussi ultérieurement, c'est dû à... Enfin, c'est compris par les lois de Kepler, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, croyez-moi seulement sur parole, si je prends l'orbite de Vénus, elle est plus petite parce que Vénus est à peu près à 100 millions de kilomètres du Soleil, alors que nous, on est à 150 millions, donc elle fait que 2/3... L'orbite, hein, c'est 2 pi r, donc si r est 100 au lieu de 150, eh bien, ça fait que 2/3. Donc l'orbite de Vénus est 2/3 de l'orbite de la Terre, et puis l'année vénusienne, elle est plus courte que ça, elle est plutôt de l'ordre de la moitié de l'année terrestre. Donc ça veut dire que Vénus fait 2/3 du chemin en la moitié du temps, donc elle va plus vite. Si elle faisait 2/3 du chemin en 2/3 du temps, elle irait aussi vite que nous, mais elle va un petit peu plus vite. Alors la Terre, elle va à 30 km par seconde. Croyez-moi sur parole, donc Jupiter va au moins à 40 km par seconde, donc c'est une catapulte gravitationnelle, en principe, très, très efficace. Et admettons qu'on ait une sonde qui s'approche de Vénus. Alors, dans mon dessin, ici, la sonde, elle est quasiment immobile. Alors, est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens, parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire qui sont nés en 62 ou qui sont nés un petit peu, juste un peu après ou avant, ils se rappellent du programme Apollo, d'Apollo 11... en juillet 69, etc. Et donc, ensuite, on a parlé jusqu'à Apollo 17 de tout ça très souvent. Et on a parlé du temps qu'il fallait aux astronautes pour aller de la Terre à la Lune et du fait qu'ils allaient plus vite qu'une balle de fusil, etc. Mais bon, malgré tout, même plus vite qu'une balle de fusil, c'est de l'ordre du kilomètre par seconde. Et il faut 2 jours pleins, plus le temps d'accélération et le temps de ralentissement, etc., donc à peu près 3 jours au total, pour faire de la Terre à la Lune. Alors si on va à 1 km par seconde, combien de temps il faut pour faire 50 millions de kilomètres? Ben, il faut 50 millions de secondes. Alors les sondes lancées par une fusée venant de la Terre, c'est pas mieux que la fusée Saturne V, qui était la fusée la plus puissante qui a jamais été construite depuis qu'on construit des fusées, y compris Ariane 5, Ariane 6, Ariane ce que vous voulez, ou Atlas, ou les fusées... Proton des Russes, elles sont beaucoup moins puissantes que Saturne V. Donc, les sondes qu'on envoie on n'arrive pas à les propulser à des vitesses. Une fois qu'on a réussi à quitter l'attraction gravitationnelle de la Terre, eh bien, la vitesse de croisière, entre guillemets, est de l'ordre du kilomètre par seconde, comme pour les astronautes. C'est le même ordre de grandeur. Donc 50 millions de kilomètres, 50 millions de secondes, il y a à peu près 30 millions de secondes par an. Hein, vous faites le calcul, 365 fois 24 fois 60, et vous obtiendrez à peu près 31 millions de secondes. Donc, il faut un peu plus d'un an. Hein, si on va à un peu plus qu'un kilomètre par seconde, on va mettre de l'ordre de grandeur de un an et demi, pour arriver jusqu'à Vénus, si on vise bien. Donc voilà, c'est l'ordre de grandeur. On va de la Terre à Vénus, on se fait une petite sonde, catapulte, et cette fois-ci, maintenant, on va à deux fois la vitesse de Vénus, donc maintenant, c'est génial. On va non plus à 1 km par seconde, mais on va à deux fois 40 km par seconde, on va à 80 km par seconde. C'est extrêmement efficace. Alors si Vénus n'a pas exactement la trajectoire qu'il faut pour qu'on vise exactement vers, par exemple, Jupiter, qui sera la prochaine catapulte qu'on va utiliser pour aller vers Saturne, par exemple, avec Cassini, eh bien, on ne gagne pas 80 km par seconde, mais un peu moins, mais l'ordre de grandeur, c'est quand même de l'ordre de 50 km par seconde. Donc on voit que maintenant, évidemment, on va avoir des chemins beaucoup plus grands à parcourir, mais on va 50 fois plus vite. Donc l'ordre de grandeur de Saturne, ça se compte en milliards de kilomètres et non plus en centaines de millions de kilomètres. Donc on a un facteur 10 de chemin de plus à parcourir. Hein, on a parcouru 50 millions de kilomètres et cette fois-ci on a 2 milliards de kilomètres. Alors c'est plutôt même un facteur 20 ou 40 fois plus, mais on va 20 ou 40 fois plus vite. Donc l'ordre de grandeur, c'est aussi l'année. Alors c'est un peu plus long que ça. Pourquoi ? Bien parce que, alors je ne me suis pas trompé, oui, ben c'est parce que justement il faut viser pour aller sur la bonne trajectoire pour utiliser Jupiter comme catapulte. Et il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que si on arrive au niveau de Saturne avec des vitesses de l'ordre de 40 ou 50 km par seconde, c'est comment qu'on freine ? Comme dans la chanson de Bachung. Eh bien, on n'a rien pour freiner. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de plaquettes de frein. Donc, en fait, il ne faut pas aller trop vite quand on arrive. Alors, probablement, Jupiter, on va plutôt l'utiliser pour ralentir, pour accélérer. Donc, les journalistes scientifiques ont tout faux. En tout cas, les journalistes qui commentent les grands programmes spatiaux quand ça arrive. En tout cas, on voit qu'on comprend qu'il faille plusieurs années par ce jeu de flipper interplanétaire pour que la sonde, au départ, qu'on a réussi péniblement à propulser à l'ordre de 1 km par seconde, finalement, elle traverse les espaces interplanétaires et arrive à Saturne, et même récemment, on est allé jusqu'à Pluton. Voilà. Mais Pluton, par contre, il était impossible d'y aller en un temps raisonnable avec des vitesses qui permettaient à la sonde d'être capturée par la gravitation de Pluton. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que en fait, cette sonde elle a fait un survol de Pluton, et de Charon aussi, hein, son satellite qui est très gros en relatif. Mais c'est seulement un survol, donc ça a duré quelques heures ou quelques dizaines d'heures, avec des photos de plus en plus proches, puis ensuite de plus en plus loin. J'attends que Pluton redevienne un point et que la sonde se perde dans l'espace. Je crois qu'elle avait aussi un rendez-vous avec un astéroïde très lointain aussi, pour en profiter au max. Mais voilà, là aussi, un survol rapide. Donc voilà, vous voyez qu'avec un tout petit peu de Galilée, de choses qui étaient comprises il y a 400 ans, un tout petit peu de Newton, des choses qui étaient comprises il y a plus de 300 ans, eh ben, on arrive à décoder ce qu'on nous raconte sur les programmes spatiaux. Et pourquoi ça prend des années et qu'on utilise planètes comme catapultes gravitationnelles. Et comment on peut considérer l'interaction entre une planète et une sonde comme un choc, même si l'effet gravitationnel est attractif plutôt que d'être répulsif. Ça, on pourra y revenir éventuellement. Alors, moi, c'est l'avant-dernier slide. Hein. Donc, le dernier, c'est parle de la semaine prochaine. Si c'est le bon fichier, sinon dans le fichier d'avant, j'avais pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit, je crois. Est-ce qu'il y a encore un slide, Michel ? Allô ?
Tu es là ?
Est-ce qu'il y a encore un slide après ?
Ah, après celui-là.
Non, d'accord. Donc dans le slide que je n'ai pas eu le temps de vous envoyer parce que ma connexion est très lente, je disais la chose suivante, je vais vous le dire de vive voix, c'est que du texte de toute façon. Alors, la semaine prochaine, grâce à tout ça, ce qu'on a compris, et à un petit supplément quand même dont on a déjà parlé, qui est le troisième loi de la dynamique, action-réaction, on va pouvoir parler de l'origine des rayons cosmiques supposés dus à l'explosion et au reste, au vestige de supernova après l'explosion d'une supernova. Et on va pouvoir parler des moteurs à réaction, entre autres ceux des fusées, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Parce que là, on a déjà bien... j'ai fait une présentation, en effet, qui était un peu plus que 30 minutes, mais à la fin, là, je digressais. Donc, s'il y a des questions ou des remarques...
J'aimerais bien revenir à Nadal. J'ai une question simple. Si la balle, elle part à 200 km/h, et d'après ce que tu nous as expliqué, là, au moment où la raquette tape la balle, la raquette va à 100 km/h. C'est bien ça ?
Oui, alors c'est qui parle ?
C'est Michel.
D'accord. Oui, on est bien d'accord. Et c'est pareil avec la casserole qui tape sur le gobelet en plastique. Voilà. La casserole va à une certaine vitesse qui est de l'ordre de mètres par seconde, un peu moins, et puis le gobelet va plus vite, comme tu as pu voir sur les captures d'écran. Donc, ok. Quelle est la question, du coup ?
La question, c'est oui ou non. Donc, c'est bien répondu. La réponse est oui.
Ce que tu peux me confirmer, et je te remercie, Michel, c'est que ça reste intriguant.
Oui.
Quelles que soient les explications qu'on donne.
Bon. C'est pas si simple.
Alors, t'es déjà allé taper le ballon de foot avec tes amis ou tes enfants ou tes neveux ou nièces et je ne sais qui.
Bien sûr.
Quand tu te donnes un coup de pied dans le ballon, est-ce que le ballon il reste collé à ton pied ? Quand tu shoot.
Ben non, le ballon il part.
Il part, il reste absolument pas collé. Ça fait un choc un peu dur au niveau du bout du pied. Si ta godasse elle est pas assez, si c'est pas une chaussure de foot, hein. Mais le ballon il décolle beaucoup plus vite que ton pied.
Oui.
Enfin, ça, il décolle donc ça veut dire qu'il va plus vite que ton pied.
Au niveau expérimental, c'est tout à fait évident. Enfin, pour moi, en tout cas.
Ouais. Mais au niveau du pourquoi, du comment, c'est dur. Alors, ce qu'il faut vraiment... Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les deux approches. La première, c'est voilà ce qui se passe globalement. C'est-à-dire que si maintenant tu mets un petit lutin malicieux sur ton pied, ben qu'est-ce qu'il voit ? Lui, il voit arriver un ballon qui va rebondir sur ton pied. Donc, s'il rebondit sur ton pied, il va donc plus vite que le pied. D'accord ? Et M. Galilée nous a dit que la physique était la même que l'on soit le petit lutin malicieux sur ton pied ou que l'on soit soi-même immobile et qu'on voit notre pied avancer. Donc, on change de référentiel, mais rien ne change, sinon, à part les vitesses relatives, puisque les vitesses sont toujours relatives au référentiel. Donc, relativement au référentiel, si par exemple ton pied, il part, comme on n'est pas des champions et tout, ben, si ton pied il part, mais quand même assez vite, disons 40 ou 50 km/h, au moment du choc, d'accord, surtout si tu as pris de l'élan, hein, et que tu tapes en courant, eh bien, ton ballon, il va partir plus vite. Et si le ballon il est très très bien gonflé et que ta chaussure est bien dure, eh bien, le ballon va se déformer au moment du choc et ça va faire un effet de ressort qui va s'appuyer sur ton pied pour aller encore plus vite que le pied. Est-ce que ça parle ?
Oui, voilà. Oui, tout à fait.
Bon, ben, c'est ça qui se passe. Il faut vraiment imaginer qu'il y a un paquet de petits ressorts qui sont coincés entre ton pied et le ballon et qui font que quand tu donnes un coup, non seulement tu propulses le ballon à la vitesse de ton pied, obligatoirement, au minimum, mais en plus tu comprimes les ressorts. Donc quand les ressorts se décompriment, si ton pied était très léger, à ce moment-là, il part en arrière. Et du coup, c'est comme le carreau, ce qui se passe, c'est que ton pied s'arrête et le ballon part à la vitesse du pied. Mais comme ton pied et ta jambe et tout ton corps sont lancés et sont plus lourds que le ballon, eh bien en fait, l'effet de ralentissement dû au choc avec le ballon est quasiment négligeable pour toi, et tout se passe pour le ballon comme si c'était un joueur de masse infinie qui le frappe.
Ah oui, c'est ça qui compte, oui. C'est le rapport des masses. Oui,
ouais. D'accord. Ouais, bien sûr, évidemment.
Comme dans les planètes, ok.
Voilà, comme pour les planètes. Mais évidemment, quand le rapport est de 1 à 1 milliard ou de 1 à 100 milliards, ben, de toute façon, il est gigantesque, donc ça ne change rien entre Vénus et Jupiter. C'est toujours le même effet.
Alors, si on prend un exemple où le ballon a la même masse que le pied, j'essaye de
prendre... Eh bien, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu tapes avec un ballon dans un autre ballon, et ben, tu vas avoir le premier ballon qui va s'arrêter, et le deuxième ballon qui va partir avec la vitesse du premier ballon. C'est le carreau. C'est le principe du carreau à la pétanque. Alors je vous ai dit que vous pouviez tous tester ça très facilement sur une table suffisamment lisse avec des pièces de monnaie. Vous tapez dans une pièce et vous allez voir que si vous tapez bien droit, eh bien, la première pièce va s'arrêter et la deuxième va repartir. La première pièce va s'arrêter là où était celle dans laquelle on tape. Ça marche bien. J'entends pas.
Pardon, c'est Yann.
À peine, vas-y.
Ah oui, attends, c'est mieux là ?
Oui, c'est très bien là.
Oui, dans certains magasins, ils vendent ces petits pendules avec des billes suspendues à deux fils. Il y a une série de billes. Et puis, ben, on peut faire des carreaux, mais on peut s'amuser avec les carreaux, puisqu'il y a plusieurs billes, l'une à la suite de l'autre. Et en suivant exactement les principes que Fabrice vient de nous expliquer, on voit que. Si on lance la première bille contre toutes les autres, ben, il y a la dernière bille qui part. Et puis si on en prend deux, il y en a deux qui repartent. Et après, on peut aller même prendre plus de billes.
Oui, sur cinq billes, on peut en prendre quatre. Oui, c'est rigolo. Ouais.
On lâche quatre billes et il y en a quatre qui repartent.
Alors, j'ai essayé, ça marche aussi avec les pièces de monnaie sur une table. C'est-à-dire que si tu fais en enfilade, tu mets quatre pièces de monnaie, et que tu tapes la première et que tu tapes bien en enfilade, et ben c'est la première s'arrête et c'est la quatrième qui repart.
Oui, mais pour faire après...
Et ben si tu arrives, alors c'est un peu plus dur, si tu arrives à lancer deux en même temps, et ben tu vas avoir les deux qui vont repartir. Mais ça marche. Parce que c'est un grand principe fondamental et donc ça marche toujours. Tant qu'on arrive à se débarrasser de l'effet secondaire du frottement. Mais oui, le pendule de Newton, c'est assez fascinant. Moi, quand j'étais gamin, j'étais assez fasciné. Ouais. Donc, vous avez aussi des vidéos de pendule de Newton. Vous tapez pendule de Newton et vous allez en voir autant que vous voulez. D'autres remarques ou questions ? Non ? Donc, pour vous mettre l'eau à la bouche... le mécanisme que l'on soupçonne être à l'origine de la production de rayons cosmiques d'une énergie tellement grande qu'elle est beaucoup plus grande que celle qu'on obtient dans les accélérateurs terrestres, y compris au LHC, n'en déplaise à tous nos collègues qui travaillent au LHC, et même au SLHC, etc., à tout ce qu'on veut, la nature fait encore mieux. Alors, Jocelyne nous dit qu'elle vient de vérifier avec les billes. Et ça marche, donc manifestement, sinon elle nous dirait ça marche pas et elle veut un prix Nobel.
C'est ça.
Ok, super. Très bien. Alors, donc c'est M. Enrico Fermi qui a eu l'idée. Alors, il a une première idée qui était très subtile et qu'on appelle le modèle d'accélération de Fermi de premier niveau, premier je ne sais plus quoi, enfin, premier quelque chose, j'ai oublié le terme. Et puis, ensuite, il a eu l'idée, deuxième phénomène. Et le deuxième phénomène, qui est beaucoup plus simple, c'est celui dont on parle là, c'est l'équivalent du choc d'une raquette sur une balle au repos. La balle au repos étant, par exemple, un proton, c'est-à-dire un noyau d'hydrogène, il y en a beaucoup dans l'univers, et puis la raquette, en fait, l'onde de choc de la supernova. Mais ensuite, pour vous expliquer comment ça marche vraiment, je ne peux pas vous l'expliquer en deux minutes, mais je peux vous mettre l'eau à la bouche, sachant que quand même, c'est une raquette qui va à peu près à 10 000 km par seconde, donc c'est du costaud. Hein. L'ordre de grandeur, c'est plutôt 10 000 km par seconde, et grâce à un phénomène amusant et naturel, eh bien, bien que ce qui joue le rôle de la balle, c'est-à-dire le proton, parte donc avec une vitesse double, 20 000 km par seconde, un phénomène intéressant lui permet de revenir sans avoir perdu de vitesse et d'énergie et de reprendre une deuxième fois le choc, puis une troisième, puis une quatrième, etc., etc. Et à force de se prendre des chocs où on se prend à chaque fois 20 000 km par seconde, ben on s'approche assez rapidement des 300 000 km par seconde et à ce moment-là, on ne gagne plus en vitesse, mais on gagne en énergie à chaque choc. Ça devient relativiste, mais on gagne toujours en énergie. Et on obtient à ce moment-là des énergies qui sont 1000 voire 10 000 fois les énergies qu'on trouve au LHC. Ça, c'est pour les chocs de supernova. Et ensuite, il y a d'autres phénomènes qui se produisent autour des trous noirs supermassifs qu'il y a au centre des galaxies. Et là, on pense que c'est plutôt là que se produisent des rayons cosmiques qui ont des énergies, et là, qui se comptent plutôt en millions, voire en... alors, que je ne dise pas de bêtises, l'ordre de grandeur, c'est le joule. Donc, c'est 10 puissance 19, voire même 10 puissance 20 électron-volts. Donc, en GeV, ça fait 10 puissance 11 GeV, donc ça fait 10 puissance 8 EV, 10 puissance 7 fois, oui, c'est l'ordre du million de fois, voire la dizaine de millions de fois l'énergie. Au moins le million de fois l'énergie qu'on a au CERN. Évidemment, les flux sont très faibles, mais ramené à l'univers, ça fait quand même gigantesque. C'est ce qu'on observe, par exemple, à l'observatoire Pierre-Auger en Argentine, dans la Pampa argentine. Et on observe les conséquences de ces rayons cosmiques dans l'expérience S, dont on a beaucoup parlé, puisqu'on avait un collègue qui était coincé pendant 3 mois et qui a vu des choses superbes pendant son confinement là-bas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, avec Magali, on est en train de vous concocter quelque chose qui sera à base de quiz, de questions de science et des questions historiques et des choses comme ça, et qu'on espère proposer pour une des soirées au moment des journées du labo. Alors, ceux qui auront suivi mes chroniques auront un énorme avantage par rapport aux autres, puisqu'après, l'idée, ce sera un jeu par équipe de type Trivial Pursuit. Donc, évidemment, ceux qui auront suivi les chroniques seront sérieusement avantagés. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On vous donnera quelques idées de questions qui peuvent germer dans notre esprit peut-être la prochaine fois. Mais la question typique étant où tombe la clé à molette, comme on a fait, mais on peut imaginer d'autres questions un peu plus subtiles encore. Alors je peux vous en donner une comme ça, pour vous, une plutôt historique. Ça, c'est mon professeur de physique nucléaire quand j'étais étudiant, qui s'appelait Monsieur Maurice Jean, et qui à l'époque était en fin de carrière, donc il avait connu tous les grands noms de la physique qu'on voit dans les bouquins, c'est-à-dire il avait croisé Dirac, il était copain avec Joliot, voilà, c'était quelqu'un comme ça. Et donc, il nous avait raconté comment ça s'était passé, la première rencontre entre Frédéric Joliot-Curie et Enrico Fermi. Donc, la question que je pose à ce moment-là, c'est qu'a répondu Fermi à Joliot quand Joliot s'est présenté à Fermi? Parce qu'ils se sont rencontrés à une conférence, et Joliot, c'était quelqu'un d'assez chaleureux, il était le voir, tendant la main, et il s'est présenté, et Fermi lui a répondu quelque chose. Donc Joliot-Curie s'est présenté à lui en disant « Joliot-Curie », voilà, en tendant la main. Et donc, qu'a répondu Fermi? Je vous le donne en mille. Il lui a répondu « Fermi, Fermi ». Voilà. Alors, évidemment, c'était la petite pique acerbe avec l'idée que Joliot ne se sentait pas assez sûr de lui pour compter seulement sur son nom, qu'il avait ajouté le nom de sa femme, qui était le nom aussi de Pierre et Marie Curie. Alors que lui se sentait suffisamment assuré que Fermi-Fermi, ça lui suffisait, quoi. Donc c'était quand même un premier contact, pas... Je pense que Joliot était un peu pris de court. Parce que la raison pour laquelle, quand ils se sont mariés avec Irène Curie, ils ont décidé de mettre leurs deux noms, c'était plus un acte politique à dire qu'il n'y avait pas de raison que le nom de la femme disparaisse quand les gens se mariaient. Qu'une histoire de s'appeler du nom de Curie pour frimer, de la part de Joliot. Voilà. Donc il peut y avoir un certain nombre de questions historiques comme ça. Par exemple, on peut vous demander citer deux prix Nobel de physique qui se prénomment Albert. Alors est-ce que quelqu'un sait répondre à cette question-là parmi l'audience? Évidemment, il y en a un, c'est évident, mais l'autre... Voilà, Fert. C'est qui? C'est Yann qui a répondu?
C'est Benjamin.
C'est? J'ai pas entendu.
Benjamin.
Ah, c'est Benjamin. D'accord. Voilà. Voilà. Moins évident que Albert Einstein. Bien. Ben écoutez, on va se quitter et puis attendre la semaine prochaine. Donc, bonne fin de journée. Et surtout, vous pouvez aussi me faire des retours a posteriori par mail, comme vous voulez, hein, si vous avez des suggestions de modifications, d'ajouts, d'améliorations. Je suis preneur, bien entendu. OK. Merci à tout le monde pour votre attention. Et je passerai à Magali les enregistrements. Allez, bonne journée à tous.
Au revoir.
Au revoir. Magali? Magali? Non, elle n'est plus là. Bon, ok.